Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour. Décès de Miloslava Kalibova, une des dernières survivantes du massacre de Lidice en 1942. Les services d'inspection contrôlent les vendeurs de feux d'artifice et puis la République tchèque commande 2 avions de transport Airbus. Miloslava Kalibova, qui avait survécu au massacre du village de Lidice, est décédée à l'âge de 97 ans, a fait savoir le porte-parole du mémorial de la commune martyr. Déportée au camp de Ravensbrück pendant 3 ans avec sa mère et sa sœur, elle avait également survécu aux marches de la mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait consacré les dernières années de sa vie à témoigner dans des écoles, dans des entretiens ou des documentaires sur la période. En représailles à l'attentat contre le Reichsprotektor Reinhard Heydrich en 1942, les nazis ont rasé 2 villages tchèques, dont le plus célèbre est Lidice, à quelques kilomètres au nord de Prague. Tous les hommes furent exécutés et les femmes et les enfants déportés. Aujourd'hui, Yaroslava Sklenichkova est la dernière des 143 femmes de Lidice ayant survécu à la guerre. Les retraités tchèques vont voir leur pension augmenter de 900 couronnes par mois à compter du 1er janvier 2020. Un supplément de 200 couronnes s'ajoutera à la valorisation d'environ 700 couronnes qui était déjà prévue par la loi en fonction de la croissance des salaires réels et de l'inflation. Le montant moyen d'une pension de retraite en République tchèque devrait atteindre 14 350 couronnes, soit 560 euros, soit une augmentation interannuelle de 6,7%. Le Parti social-démocrate, membre de la coalition gouvernementale, s'est fixé pour objectif de faire en sorte que les pensions atteignent 50% du salaire moyen d'ici les prochaines législatives prévues en 2021. L'inspection tchèque du commerce a lancé une série de contrôles chez les vendeurs de feux d'artifice dans toute la République tchèque, s'intéressant tout particulièrement à ceux qui ont commis des infractions par le passé ou ceux qui font l'objet d'une plainte par les consommateurs. En République tchèque, la vente de feux d'artifice est divisée en plusieurs catégories pour les plus de 18 ans, pour les plus de 21 ans et pour les professionnels. L'utilisation de feux d'artifice est en outre interdite depuis 2 ans dans les 4 parcs nationaux du pays, y compris dans les villages, hôtels et pensions situés dans ces zones naturelles protégées sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 couronnes. L'an dernier, les inspecteurs ont effectué 127 contrôles et interdit la vente de feux d'artifice d'une valeur de près de 300 000 couronnes. De plus en plus de feux d'artifice sont toutefois aujourd'hui vendus sur Internet. Disposant déjà de 4 appareils de ce type, la République tchèque vient de commander 2 nouveaux avions de transport C-295 à Airbus, a récemment annoncé l'avionneur. Leur livraison est prévue à la mi-2021. Les 4 C-295 déjà actifs seront par ailleurs modernisés. C-295 Cargo disposent d'une capacité leur permettant d'accueillir 71 passagers et jusqu'à 50 parachutistes. Victime d'une cyberattaque le 11 décembre dernier, l'hôpital public de Benešov en Bohême centrale a annoncé être à nouveau pleinement fonctionnel. Début décembre, un cryptovirus avait frappé l'ensemble du système informatique de l'établissement, engendrant une paralysie partielle. Suite à cette attaque, l'hôpital a ainsi dû annuler toutes les opérations prévues en décembre. Celles-ci ont été reportées à janvier et février 2020. Selon l'hôpital et la région de Bohême centrale, les dégâts financiers causés par cette cyberattaque seront immenses, mais la direction a assuré qu'il n'y aurait aucune conséquence pour les patients ou les employés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette attaque, dont le président de région a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une frappe ciblée et qu'aucune rançon n'avait été demandée, comme cela a pu être le cas en novembre dernier au CHU de Rouen en France. Et puis des milliers de skieurs ont afflué dans les stations de ski de République tchèque durant le week-end à l'approche de la Saint-Sylvestre et suite à l'amélioration des conditions météorologiques avec un refroidissement de l'air et des chutes de neige après Noël. Dans les monts des Géants, la neige tant attendue a compliqué la circulation sur les routes menant aux stations les plus prisées des Tchèques. Dans les stations situées en haute altitude, la baisse des températures a permis la fabrication de neige artificielle. Les stations de ski situées en plus basse altitude attendent quant à elles plus de neige alors que pour l'heure l'hiver reste pour le moins clément sur l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de météo, un point sur celle de mardi, dernier jour de l'année 2019 et fête des Sylvestres. Ce mardi verra une nouvelle hausse du thermomètre, 5 degrés en moyenne et un ciel plutôt dégagé, hormis sur les sommets du nord du pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme. Je vous laisse en compagnie d'Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
À notre écoute, coûte que coûte, bienvenue à l'écoute du programme en français de Radio Prague International. Ce n'est pas le dernier programme de l'année, c'est l'avant-dernière émission de l'année, une émission riche et variée, comment pourrait-il en être autrement, même si, je vous le concède, chères auditrices, chers auditeurs, tout le monde est un peu à bout, un peu à cran entre Noël et Jour de l'An. Cela ne nous empêche pas de vous proposer quelques excursions auditives et du bonheur radiophonique à l'écoute du programme en français de Radio Prague International. Nous irons aujourd'hui au Japon pour une exposition consacrée à Alphonse Mucha, et puis dans la capitale tchèque, nous irons faire un tour des salles d'escalade, un nouveau phénomène à Prague. Et voilà pour le programme, je vous souhaite une très agréable écoute de cette émission. Et on commence avec un petit détour par le Japon, où depuis le mois de juillet dernier et jusqu'au 29 novembre, l'exposition Timeless Mucha, Mucha to Mangas, The Magic of Line, est organisée par la Fondation Mucha. Depuis Tokyo jusqu'à Nagano, en passant par Kyoto, Sapporo et Nagoya, l'exposition présente le travail d'Alphonse Mucha et surtout son influence sur des auteurs de manga japonais depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Plus d'explications, c'est avec Thomas Perrocho.
Culture sans frontières.
Des affiches publicitaires, des croquis, des livres illustrés, des mangas japonais, des objets de la collection privée de l'artiste tchèque Alphonse Mucha, voilà ce que l'on peut trouver si l'on s'aventure dans la surprenante exposition de plus de 250 œuvres que l'on pourrait traduire par l'éternel Mucha, de Mucha au manga, la magie de la ligne. Surprenante, cette rencontre entre deux mondes, l'un tchèque, l'autre japonais, est pourtant évidente pour la curatrice de la fondation Mucha, Tomoko Sato.
À vrai dire, c'est l'aboutissement d'un long développement qui a commencé en 2013 et encore aujourd'hui, des recherches sont en cours. En bref, deux éléments m'ont inspirée. Je me suis d'abord demandé pourquoi Mucha était si populaire au Japon, en témoigne le nombre d'expositions sur l'artiste dans ce pays, qui sont bien plus nombreuses qu'ailleurs. Le second facteur est qu'au début du XXIe siècle, j'ai pris conscience que certains historiens de l'art ou curateurs d'expositions sensibilisaient à propos de l'influence de Mucha sur de jeunes graphistes. Mais les questions comme savoir pourquoi Mucha est si populaire au Japon et quelle relation existe-t-il entre le style de Mucha et le style des mangas japonais n'avaient pas encore été abordées. C'était donc mon point de départ.
Lorsqu'elle entame sa fonction de curatrice, Tomoko Sato a l'opportunité d'explorer l'univers dans lequel travaillait Alphonse Mucha et elle s'émerveille devant sa collection personnelle d'œuvres d'art. Une collection riche de peintures sur verre, de mobilier, de livres, à la fois de pays orientaux comme le Japon, mais également de Moravie. Pour la curatrice, c'est la preuve que le style de Mucha est le fruit d'une sorte d'hybridation culturelle. L'exposition itinérante est l'occasion de montrer au public ses paravents japonais et autres vases décoratifs qui ornaient la demeure de Mucha et l'ont inspiré tout au long de sa vie. Des influences réciproques mises en lumière, désormais dans les plus grands musées japonais. À la question de savoir s'il était compliqué de convaincre les musées d'accueillir une telle exposition, Tomoko Sato répond.
Oui et non. Les mangas sont très populaires au Japon et ils représentent une part très importante et influente de leur culture. Dans le monde artistique japonais, il existe une certaine hiérarchie. Le grand art et l'art mineur. Le grand art correspond bien sûr à ce que nous appelons les beaux-arts, c'est-à-dire la peinture à l'huile, la sculpture, etc. Les mangas ne sont pas vraiment considérés comme une forme d'art, mais plutôt comme une branche de la culture populaire. Quand nous avons soumis l'idée à nos partenaires japonais, il y a eu toutes sortes de questions, mais petit à petit, ils ont commencé à prendre conscience à quel point le style de Mucha était proche d'œuvres japonaises. Plus ils l'ont compris, plus ils l'ont apprécié.
Cette frontière entre deux niveaux d'art, Cindy Berthet l'a ressentie pendant ses études. Plus connue sous le nom de Didizuka, elle est prestataire de services dans le milieu du manga, entre maquette et lettrage pour principale activité. Elle raconte comment Mucha était perçu.
J'ai fait des études en art en France et il y avait un mépris total parce qu'il était populaire en France et ça plaisait pas. Alors que le but de l'art nouveau, c'était justement d'être accessible à tous. Et c'est un peu le même mépris qu'on retrouve dans le manga en fait. Le manga est populaire et alors là, pareil, quand j'étais en art, j'ai dit j'aimais le manga et tout. C'est pas très bien passé.
Pourtant, ce mépris n'a pas toujours existé pour l'artiste tchèque. De son vivant, Mucha a su créer l'admiration autour de son travail, se rendant notamment célèbre à la fin du XIXe siècle en devenant illustrateur officiel de la comédienne Sarah Bernhardt. Mais sa renommée ne lui survit pas lorsqu'il meurt à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Tomoko Sato nous raconte comment on a redécouvert Alphonse Mucha.
C'est une histoire très intéressante. Après sa mort en 1939, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, Mucha est tombé dans l'oubli. Mais dans les années 1960, il y a une sorte de renaissance portée par le Victoria and Albert Museum à Londres, qui a exposé l'artiste pour la première fois depuis des décennies, inspirant nombre de jeunes artistes. Un autre aspect intéressant est que du point de vue des Japonais, comme Mucha avait été inspiré par l'art nippon, c'était une sorte de déjà-vu. C'était donc simple pour eux de se l'approprier, car leur esthétique correspondait déjà au code de Mucha.
C'est donc toute une génération d'artistes dans les années 60-70 qui a été inspirée par le travail de Mucha. Tomoko Sato a dressé ce constat à la suite d'entretiens avec différents graphistes pour choisir ceux qui participeront à l'exposition. Si beaucoup de mangaka revendiquent un héritage de Mucha, les espaces d'exposition ne permettent pas de les accueillir tous. Il fallait donc faire des choix et la curatrice a décidé de se concentrer sur certains types d'artistes. Elle s'est notamment penchée sur les dessinateurs de shoujo manga, un genre destiné à un lectorat féminin qui parle généralement de romance avec de multiples effets d'introspection, de révélation ou de retranscription des pensées propices à la réutilisation des codes d'Alphonse Mucha. Par ailleurs, pour Tomoko Sato, il n'y a pas de doute sur les similitudes entre la représentation féminine selon l'artiste tchèque et celle des artistes de shoujo manga. Celle-ci repose notamment dans des visages idéalisés, de longs cheveux formant des courbes, des coiffes, l'utilisation d'arabesques, ainsi que des expressions rêveuses avec le regard tourné vers le spectateur ou le lecteur. Pour Cindy Berthet, le style de Mucha représente une source riche pour les mangakas.
Mucha, il a quand même des images assez synthétiques, puisque souvent à vocation publicitaire ou des choses comme ça, donc c'est vraiment très percutant. Percutant dans la stylisation, percutant dans le choix des éléments qui vont être mis en valeur. Et donc, par ses compositions, ses placements, il y a beaucoup d'impact, tout en ayant une fausse économie. Ça a l'air simple, mais c'est pas non plus très simple, parce que c'est quand même très réfléchi comme image. Les Japonais, quand ils dessinent des mangas, comme ils sont aussi beaucoup sur l'émotionnel, et ça se voit notamment beaucoup dans les shoujo mangas, c'est là où c'est beaucoup repris, l'utilisation des images de Mucha, donc adapté bien sûr à leur histoire avec leurs personnages, leurs préoccupations, fige un instant du temps et donc permet de mettre vraiment en avant une émotion, une action, quelque chose qui devient très particulier dans la narration.
Parmi les artistes exposés, on peut donc trouver des mangaka tels qu'Hideko Mizuno, l'une des premières femmes mangaka considérée comme la fondatrice du genre shoujo. C'est sur son œuvre Fire, publiée dans la fin des années 1960 et récompensée en 1970, par le Shogakukan Manga Award, que l'exposition se penche. Racontant la vie d'un musicien de rock qui cherche à conduire les gens vers la liberté par la musique, la représentation des personnages rappelle beaucoup le style de Mucha. On peut également y voir les œuvres de Ryoko Yamagishi, comme le manga arabesque publié en 1972. Si dans un premier temps elle s'est inspirée des comics américains, la dessinatrice a très vite découvert que ces derniers empruntaient le style de Mucha. L'exposition propose aussi de découvrir le travail de l'artiste Yoshitaka Amano, célèbre notamment pour avoir conçu les personnages de la série de jeux vidéo Final Fantasy, dont le design s'est distingué par des couleurs pastels que l'on retrouve beaucoup dans le travail de l'illustrateur tchèque, qu'il a découvert dans une exposition au début des années 1970. En creusant, Tomoko Sato a découvert que cette inspiration avait en fait commencé dès le début du XXe siècle, lorsque Mucha se fit connaître pour la première fois au Japon, mais qu'il ne s'agissait pas encore d'une appropriation consciente des codes de l'artiste. Si cette dernière a commencé avec la seconde moitié du XXe siècle, elle peut encore être observée dans des œuvres plus récentes. C'est donc dans des mangas des années 1990 que Cindy Berthet a perçu cette influence toujours présente.
Les clans, c'est super flagrant. Et c'était très intéressant, c'est dans une œuvre qui s'appelle Rig Veda, qui pourtant adapte plutôt des textes bouddhiques, d'avoir inclus dedans des références à l'art occidental. Donc il y a Mucha, bien sûr, donc, qu'on retrouve à certains moments clés forts ou apparitions de personnages, où des draperies vont être stylisées, des cheveux, des bijoux, beaucoup de bijoux en fait. Une autre œuvre aussi qui a eu beaucoup de succès, c'était Sailor Moon, pas dans l'anime, hein, vraiment dans le manga papier, où là aussi l'auteur abusait des cadres pour mettre des visages de personnages en dualité, des objets importants, toujours une mise en valeur d'un coup, donc figer la narration pour une avancée scénaristique.
Pour visiter cette exposition, il faudra soit se rendre au Japon, soit s'armer de patience. On écoute Tomoko Sato.
We are investigating the possibility
Nous explorons la possibilité de présenter cette exposition hors du Japon, mais modifiée et adaptée à chaque pays d'accueil, suivant les influences que l'on y trouve. Donc oui, nous prévoyons d'exposer en Europe et en Amérique.
Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur notre site radio.cz/fr.
Après Alphonse Mucha et les mangos, merci Thomas Perrochot. Eh bien, nous passons au sport et plus spécialement à l'escalade, car nous avons dans la rédaction une spécialiste de l'escalade. Moins d'un an avant son entrée aux Jeux Olympiques, pour la première fois de l'histoire, l'escalade bénéficie d'une popularité croissante dans le monde entier et la République tchèque, qui a par ailleurs le meilleur grimpeur du monde dans ses rangs, n'est pas en reste, comptant à elle seule plus de 20 salles de grimpe. Prague, la capitale, s'est forgée une solide réputation de capitale de la discipline dans le pays, comme nous l'explique Camille Montagnon.
Pour les adeptes du baudrier, la République tchèque est historiquement réputée pour les tours rocheuses de sa Suisse tchèque, considérée comme le berceau de l'escalade des falaises de grès. Mais ces dernières années, c'est l'escalade en salle qui fait l'objet d'un véritable engouement, notamment à Prague. La ville possède en effet tout un florilège de spots, comme nous l'a expliqué Lucie Peschkova, grimpeuse et formatrice à la salle de bloc Ultra Hound de Prague depuis plusieurs années.
Je réfléchissais au nombre de salles d'escalade que nous avons ici à Prague. J'en ai compté une vingtaine, peut-être même plus. Tout dépend du type de grimpe que vous préférez. La difficulté, le bloc, la grimpe en extérieur, en salle. Par exemple, à Ultra Hound, on grimpe à l'ancienne, c'est-à-dire que les mouvements se rapprochent plus de l'escalade en falaise, contrairement au style plus moderne et gymnique que vous pouvez observer lors des compétitions.
Which is like more gymnastic and jumpy and so on.
Bloc, difficulté, un jargon auquel il vous faudra vous familiariser avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, qui marqueront l'entrée historique de l'escalade aux JO. C'est le bloc que préfère Nathan, franco-américain en séjour Erasmus à Prague, qui grimpe notamment à Boulder Bar dans le quartier d'Olechowice.
Je pense qu'on va vraiment voir un développement de l'escalade à l'intérieur en salle, surtout avec l'escalade aux JO de Tokyo et sûrement aux JO de Paris en 2024. On va voir l'escalade un peu partout. Les professionnels, ils commencent à vraiment devenir des stars comme plein d'autres. Hein. Et je pense que ça va vraiment aider au développement de l'escalade en salle notamment, mais aussi à l'extérieur.
Et si parmi ces nouveaux grimpeurs d'élite, stars de l'escalade, il fallait n'en citer qu'un, il serait tchèque. Si vous séchez, Inès, qui vient d'Italie et étudie à Prague, devrait vous rafraîchir la mémoire.
Adam Ondra, il est tchèque, il est vraiment un bon grimpeur et je crois que ça inspire les gens. Et puis après, je crois aussi que c'est pas juste un mouvement tchèque, mais international. Et je crois que c'est parce que les gens, ils sont plus en plus conscients du environnement. Et du coup, ils veulent vivre, ils ne veulent pas juste être à la maison. Et je crois qu'en grimpant, on peut bien le faire. À mon avis, les gens, ils se rendent compte que la nature, elle est belle et qu'il faut être dehors.
Une opinion que partage Lucie, pour laquelle la popularisation de la discipline en Tchéquie est plutôt récente et généralisée à l'échelle du globe, bien que certains murs plus anciens aient vu le jour à Prague aux prémices des années 2000. Certaines salles donnent même des cours aux scolaires depuis quelques années.
This wall was open 1998 and
notre mur est un des plus vieux et il date de 1998. Je pense que le boom date d'il y a environ 6 ans à Prague et c'est à ce moment-là que deux ou trois grandes salles de grimpe ont été ouvertes. Peut-être qu'Adam Ondra a aussi participé à ce phénomène ces dernières années, surtout dans sa ville natale. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux de l'avoir.
Certains chanceux ont parfois la chance de croiser le grimpeur tchèque, célèbre pour avoir sorti Silence, la voie la plus difficile de l'histoire, au Climbing Center de Smirhof, où il s'entraîne occasionnellement. À en croire Lucie, le champion du monde d'escalade en titre représente une fierté pour les Tchèques. Il reste très accessible malgré sa notoriété grandissante. Pour Miral, pragois qui s'est converti il y a quelques années à l'escalade, la camaraderie est en effet une constante de la discipline, qui concerne aussi bien les néophytes que les initiés.
What I like, it's like it's very informal.
Ce que j'aime dans l'escalade, c'est sa dimension informelle. On se tutoie sans se connaître, et ça uniquement grâce au lieu.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne nous viendrait pas à l'idée d'agir ainsi dans la rue. Mais dans les salles d'escalade, c'est plutôt inné. Les rapports sont vraiment amicaux. Il y a un côté individuel dans l'escalade. On grimpe seul, car ce n'est pas un sport d'équipe. Pourtant, on a besoin de quelqu'un pour nous assurer. Quelqu'un en qui on a confiance, surtout lorsqu'il s'agit d'une voie difficile. J'aime ça. J'apprécie aussi le fait que l'escalade soit un sport stratégique. Il faut lire la voie avant de s'y attaquer, ce qui est assez compliqué. Donc oui, c'est vraiment un sport technique, et la plupart des gens qui ne pratiquent pas n'en ont pas conscience.
Aussi bien fréquentées par les Tchèques eux-mêmes que par des étrangers, les salles d'escalade allient l'effort physique à la convivialité. Cela participe sans aucun doute au succès et à la démocratisation de ce sport, qui après s'être professionnalisé à la fin du XXe siècle, semble renouer avec la pratique hippie des années 70.
L'ambiance dans les salles de Prague, c'est très détendu. Je crois que c'est juste l'escalade à peu près partout dans le monde. C'est un peu un sport hippie. Donc c'est détendu, on essaye, on rigole, on boit des bières en même temps. C'est un peu chill. Mais très souvent, les Tchèques qui sont très sympas et ils commencent à parler anglais pour nous expliquer ce qu'il faut faire. C'est à peu près partout, que ce soit en France, aux États-Unis, en République Tchèque, tout le monde est là pour aider.
Si Inès et Nathan ont effectué il y a quelques mois un climbing trip en falaise près de Berinje en Bohême du Sud, les températures tchèques sont actuellement plus propices à l'alpinisme qu'à l'escalade en extérieur. Les salles d'escalade qui permettaient autrefois aux grimpeurs de s'entretenir en attendant les beaux jours sont aujourd'hui utilisées toute l'année, sans nécessaire lien avec la grimpe en nature. On écoute Lucie Peskova.
Je pense qu'aujourd'hui, à Prague comme ailleurs, grimper à l'intérieur n'a plus rien à voir avec l'escalade de falaise. Pour beaucoup, l'escalade en salle est une activité de détente après le travail, mais ils n'iront jamais grimper dehors parce que c'est effrayant, ça n'est pas confortable et ça demande aussi plus de temps, de matériel, d'expertise. Donc actuellement, l'escalade d'intérieur et d'extérieur sont devenus deux sports différents.
I think it's a bit different sport, like indoor and outdoor climbing these days.
Mais pour Nathan, qu'il s'agisse d'escalade en nature ou en salle, le mot d'ordre reste le même.
Allez-y avec des potes, vraiment faites-vous plaisir parce que c'est vraiment ça l'important.
Merci à Camille Montagnon pour ce tour d'horizon des salles d'escalade en République tchèque, un véritable nouveau phénomène. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler qu'Adam Ondra, le meilleur grimpeur, le Tchèque Adam Ondra fera partie des extraits d'interviews que nous vous proposons demain dans notre dernière émission de l'année pour le best-of, ce qu'on appelle le best-of dans un mauvais anglais, le meilleur de ce que Radio Prague International a diffusé toute cette année 2019, une année marquée, vous le savez, par ce changement de nom radical, sinon brutal. Pour notre station bien-aimée, Radio Prague est devenue Radio Prague International et nous sommes toujours très heureux de pouvoir vous proposer nos programmes en français. J'espère que vous avez passé une agréable année en notre compagnie. Avant de vous proposer nos meilleurs vœux pour la prochaine année, pour la bonne année, eh bien, je vous propose un petit interlude musical pour terminer ce programme. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Internet pour toutes les archives du programme en français. C'est sur radio.cz/fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux et ce même pendant les jours fériés, même le jour de l'an, sur Twitter et sur Facebook, donc tous à vos claviers. En attendant, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt, ahoy.